Elle devait
parce que tu es partie, je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention.
Elle se
je ne prenais pas garde.
Dans une identité
je me suis retrouvée sur rien.
Indécise,
je t'oubliais assez vite.
Qui pourrait se nommer de noms indéfiniment différents.
J'étais petite, jeune,
et dans la visibilité
j'étais petite. Ce n'est pas bien que tu sois partie. Partie si longtemps.
Elle ne va pas loin dans la commune sur laquelle s'ouvre cet instant.
Ce n'est pas bien pour moi. Et ce n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Et ce n'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux.
Mais aussi, croit,
je ne crois pas qu'elle
devait y pénétrer.
Mais aussi, ce ne doit pas.
Que c'était ce qu'il
ça n'a pas dû.
Faire.
Ce ne doit pas être bien pour toi non plus.
Pour sa tête,
pour toi
son
aussi.
Corps.
Tu as dû parfois, douleur, et même si tu n'avoues pas jamais.
Jusqu'à dans leur définition devenue unique.
Il s'agit bien
mais innommable faute.
Tu as dû parfois, toi aussi,
j'aime
que
croire que si elle est silencieuse dans la vie,
tu as dû parfois avoir besoin
d'un éclair
et regretter
que ce mot pouvait exister.
Parfois,
faute de son existence,
tu nous envoyais des lettres.
Elle se tait.
Parfois, tu nous envoies des lettres.
Ça aurait été un mot absent.
Ce ne sont pas des lettres. Qu'est-ce que c'est?
Creusé en son centre d'un
juste des petits mots.
De ce une
ou deux phrases.
Tous les autres mots auraient été enterrés.
Elliptique.
On n'aurait pas pu le dire.
Parfois, tu nous envoyais des lettres. Elliptique.
Immense.
Je pensais lorsque tu es parti.
Un gong.
Ce que j'ai pensé lorsque
il
tu es parti.
Il aurait retenu.
Lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé.
Il les aurait convaincus de
l'impossible. Là que ça commence.
Il les
je
aurait
pensais que ton métier,
autre vocable
ce que tu faisais ou allais faire dans la vie.
Fois,
il les ce que tu souhaitais faire dans la
eux,
vie. Je pensais que ton métier était d'écrire.
Manquant ce mot.
Serait
gâché que les autres.
Ça aurait été un mot absence.
On n'aurait pas pu le dire.
Un mot trou.
Mais on aurait pu le faire résonner.
Creusé en son centre d'un trou.
Manquant ce mot, il gâche tous les autres.
De ce trou, où tous les autres mots auraient été enterrés.
Comme les accents, parfois une parenthèse, peut-être une question de vie ou de mort. Quand on l'a dit à haute voix, ça forme comme un trou dans la parole. C'est une aspérité ou un renfoncement dans la langue, contre lequel on vient buter sans bégayer. Quand j'écris, je fais bien attention à ne pas mettre de parenthèses. Je ne sais pas ce que c'est, surtout quand il faut les dire. Est-ce que c'est un aparté, une précision négligeable ou nécessaire, un déchet, un à côté, une chose qu'il faut mettre en évidence mais sans la dire, un détail inutile mais pas tant? Séparation. Ça creuse quelque chose dans la langue. Ça a la forme d'un tunnel. Un tunnel à l'entrée duquel surgissent, non, éruptent quelques mots. Il y a quelque chose de presque obscène. On imagine cette petite ouverture purulente par laquelle une histoire essaye de sortir, de s'échapper. Et puis quelqu'un essaye de mettre sa main pour la bloquer, tamponne avec un mouchoir enduit de désinfectant pour dire à l'histoire de rester dans son ailleurs. Et il y arrive plus ou moins bien. Parfois, l'histoire venue d'ailleurs parvient à occuper plus d'espace que ce qu'on voudrait. Elle étale des lignes et des lignes parasites. C'est une machine à faire communiquer des histoires entre elles, à faire apparaître dans un texte un autre texte qui est loin. C'est comme un téléphone dans la langue. Mais quand ça parle, ça continue à poser problème. Si je dis « tu peux me passer la tasse rouge » avec « rouge » entre parenthèses, qu'est-ce que c'est ce mot « rouge » ? D'où est-ce qu'il émerge ? Il faut que je trouve une langue parlée qui puisse dire ce qui n'est presque pas là, ou presque plus là, ou qui n'a presque jamais été là, ou qui a failli être là, et qui est là quand même sans y être. Il faut dire en un même geste ce qui est là et pas là à la fois, qui est en même temps visible et invisible, ce qui est à la fois dit et tu. Même thème, 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 même thème. Même thème.
Tu crois le tenir ?
Même thème, même thème.
Il te tient !
Même thème, même thème, même thème, même thème.
Il t'évite !
Même thème.
Vite !
Vite !
Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite !
Assez ! Nos deux mains restent soudées.
Je revois la ville.
Nos deux corps s'envolent.
Le soleil.
Et retombe tout.
La joie. Je me retourne,
je pousse un
cri,
et je crispe mes doigts. Je vous connais,
c'est ça.
Riez.
Eh bien.
Encore.
Eh bien, voyons. Regardez-moi.
Mais vous pleurez.
Vous ne m'avez jamais vue. Mieux que ça, un petit effort.
Je vous connais.
Voilà, c'est ça. Quel est le poids d'un regard et du dehors?
La liseuse présente ce corps transporté.
La liseuse
qui s'abîme dans le texte au point d'en oublier le monde extérieur.
Qui s'abîme dans le texte au point d'en oublier
ce qui ressort aussi de ces tableaux, c'est l'érotisme de la lecture. C'est le corps abandonné et provoquant de la liseuse.
Le corps abandonné
comme dans ce tableau où une femme comme dans ce tableau est à la fois perdue nue et exaltée dans l'univers du roman
et
qu'elle tient à la main,
dans l'univers du roman
tandis qu'un diablotin pose de nouveaux livres sur son matelas. On pourrait constituer quelques catégories qui ont contribué à forger un imaginaire collectif
de la liseuse.
Il y aurait la liseuse impressionniste,
assise
dans l'herbe au pied d'un arbre, sur une chaise de jardin,
sur une échelle.
La liseuse bourgeoise,
femme plus ou moins jeune,
assise dans un fauteuil ou un canapé,
environnée
d'un décor
élégant.
La liseuse de café,
attablée
à la terrasse d'un bistrot.
En habit de sortie,
son chapeau à fleurs sur sa tête ou sur la table. La liseuse sensuelle, dans un espace privé, totalement absorbée par ce qu'elle lit.
Est-ce qu'une fille qui lit seule sur un banc attend d'être abordée?
Mais le son de sa voix. L'homme s'étouffe.
Permanent. Si je suis en transe, je ne suis pas lucide. Et je deviens translucide, non plus apparente, mais transparente. Les mots averses sont transversaux. Je suis versatile devant ces universaux. Sots par l'excès de promesses, messes en prose qu'on ose et qui blessent. Suis-je défigurée ou vais-je me transfigurer? Je m'en tirerai par un démenti démentiel. Je t'aime. Froisse la feuille de l'écrivain sur laquelle traînent encore quelques écrivains, avortée. Je crie et j'écris des transports de mon cœur, transit, transit figé sur lequel ton image s'intensifie. Je suis ton reflet, le temps s'y fit, la transition d'une scission que je retranscris. Même pas, tu mourras, et voilà, et voilà, et voilà.